Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde et bienvenue à Dossier bizarre. Salut Jason!
Hey, bonjour Monsieur Tristan Brunet-Dupont, comment vas-tu?
Ça va bien, merci, et toi?
Ben ça va bien, mais écoute, je vis une situation actuellement de quelqu'un qui est en croisade contre moi. Alors là, j'ai de la difficulté avec mes médias sociaux. La personne tente de se brancher en utilisant mon identité et arrête pas de verrouiller mes comptes un peu partout. Alors c'est un petit peu problématique.
Donc, tu t'es fait attaquer?
Ben oui, je me fais attaquer par quelqu'un qui est en colère. Alors voilà.
Ah, les frustrés des plateformes web. Hein. Ben, comment c'est tanné de ça?
Le climat actuel est absolument épouvantable. Alors je le subis actuellement.
Ben non, c'est ça. T'as vraiment parce que tu as un compte Twitter qui est très populaire. Ça s'appelle Yayon.
Oui.
Les gens te suivent, puis tu partages vraiment beaucoup de phrases, de citations, des analyses, des opinions, puis il y a du monde qui est sur Twitter qui te suivent, puis il y a quelqu'un qui a réagi, en fait, quelqu'un qui a pas aimé quelque chose que tu as écrit.
Et voilà.
Là, il est allé comme s'insérer dans. Il s'est infiltré dans tes comptes Facebook et Twitter, puis il a décidé de tout détruire tes comptes.
Absolument.
C'est assez intense.
Alors là, j'ai dû me créer un nouveau compte Twitter parce que mon ancien, là, qui était rendu à quelque chose comme 8 ou 10 000 abonnés, est disparu. Puis là, c'est mon Facebook là, cet après-midi qui a subi une attaque également. Alors, je vais probablement être obligé également de me créer un nouveau compte Facebook. Mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas d'enregistrer. On va pouvoir quand même faire un épisode cette semaine.
Ben oui, on va décompresser un peu. Parce que moi aussi, j'ai une grosse semaine, Jason. On va, comme on dit, mettre la switch à off. Hein, puis on va s'amuser en jasant d'un dossier bizarre aujourd'hui. D'ailleurs, je te remercie, Jason, de présenter un deuxième dossier parce que ben moi, tu sais, j'en ai parlé un peu. Là. Je viens d'arriver dans un nouveau métier, une nouvelle ville et tout. Je suis encore en train de m'adapter à cette nouvelle routine radio. Puis, ben, le temps, j'en ai, mais tu sais, un peu essoufflé là, de l'emménagement, déménagement. Donc, plus le temps va passer, plus je vais pouvoir m'adapter et récupérer du temps quelque part dans la semaine. Mais bref, troisième sujet, je vais le présenter. Mais merci, Jason, de présenter ce deuxième sujet, donc.
Ben écoute, ça me fait plaisir et écoute, quand c'est moi qui est pas prêt, c'est toi qui prends la relève et le déménagement, je sais qu'un déménagement qui sur une question à peu près 1000 km, là, c'est toute une job après ça de se réinstaller. Alors, ça me fait grand plaisir, j'ai une super belle histoire à raconter ce soir et j'aimerais d'ailleurs, Tristan, avant qu'on commence, remercier mon collègue de la radio CILA à Saint-Pierre, Mathieu Bonenfant. Mathieu a travaillé à Iqaluit, qui est dans le nord de l'Ontario, en territoire Inuit. Inuit rendu là, oui, c'est ça. C'est le Nunavut, ou tout près du Nunavut. Il a côtoyé beaucoup d'Inuits. Et les Inuits ont beaucoup de légendes, de mythes, mais aussi des histoires assez fabuleuses, des fois un peu mystérieuses. Et il en a retenu une. Et c'est lui qui nous a proposé le sujet, ne pensant pas que c'était suffisant pour faire un épisode. Et après recherche, ben il y a du stock pas mal. Alors, on salue et on remercie Mathieu Bonenfant pour la suggestion qu'il m'a fait. Et ça m'a permis de monter rapidement un dossier là, pour pouvoir faire un épisode cette semaine.
Ah, ben c'est cool ça. Les Inuits, là, c'est, bon, dans les communautés, les peuples autochtones en Amérique du Nord, c'est un peuple autochtone. On parle du Nord, Nord, Nord.
Là. Et voilà, là, on est dans le Grand Nord canadien. Là, et il y a eu une reconnaissance du territoire des Inuits, éventuellement, qu'on a appelé le Nunavut. Et c'est un territoire qui leur appartient. Il y a une capitale, à Iqaluit d'ailleurs, qui est la capitale. C'est une des capitales les plus au nord, si je ne me trompe pas. Et c'est un territoire là, à part entière. Donc, c'est là que je vous amène ce soir, ben, ce soir, aujourd'hui ou ce matin, ou après-midi, dépendamment à quelle heure vous nous écoutez.
Et c'est dans la thématique, dans la grande thématique des disparitions étranges. Là, on peut penser un peu aux Aztèques hein, avant l'an 1500. Qui ont disparu soudainement là, en l'espace de 5 ans. On est revenu là, dans les montagnes, dans les endroits où les Aztèques étaient, puis il y avait encore, tu sais, me semble que c'est les Aztèques là, où il y avait encore des bols là, de nourriture avec des
ustensiles.
Oui,
ben c'est ça, puis on en a parlé dans un épisode passé également, la colonie de Roanoke.
Oui!
Soudainement, hein, quand le chef de la colonie est revenu de l'Europe, a trouvé sa colonie complètement déserté. C'est des événements comme ça. Il y en a un petit peu partout dans le monde, à toutes les époques. Mais je ne savais pas qu'il y en avait une histoire comme ça qui s'était passé ici au Canada et qui se passait en territoire inuit, en territoire du Nunavut. Alors, c'est là que je vous amène ce soir. Je vous amène, en fait, dans le nord de l'Alberta. L'Alberta même, c'est plus au nord. Là, on n'est même plus en Alberta, mais c'est vis-à-vis. Si on regarde une carte du Canada, la province de l'Alberta, on s'en va au nord, ce qui était anciennement la bande du sud du territoire du Nord-Ouest, qui est maintenant le territoire du Nunavut. On s'en va là. On s'en va, en fait, au lac Anjikuni, ou Anjikuni, je ne sais même pas si je le prononce correctement, et c'est là qu'on s'en va, c'est là que notre histoire se passe ce soir, Tristan. Alors, mettez votre tuque, mettez vos mitaines, votre foulard, des bonnes bottes, parce qu'on s'en va à quelque part où il fait froid quasiment à longueur d'année.
Oh, OK, fait qu'on est très haut dans le nord. On est en quelle année?
On est en 1930. Alors, on était en 1935 la semaine passée, là, on est en 1930. On recule de quelques années encore et on s'en va, c'est ça, au début, pas au début, mais à la fin de l'année 1930. Et on va avoir là, donc un peu l'historique de tout ça, l'histoire connue. Et après ça, on va analyser un peu les différentes théories. Et je te dirais qu'il y a quelques revirements de cette situation également dans cette histoire-là depuis... Le moment où on a rapporté les faits jusqu'à aujourd'hui, la situation a été analysée, suranalysée et réanalysée. Et il y a beaucoup de revirements de situation. Fait que ça risque d'être un beau petit parcours, cet épisode.
OK, ben excellent. Écoute, je suis prêt. Tout le monde est prêt. On prend la DeLorean puis on s'en va dans l'époque, en fait, à l'époque de 1930, dans le fret. Je suis prêt.
Excellent, Tristan. Alors, on va suivre un témoin qui est la pièce maîtresse, celui qui lance cette histoire-là. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelait Joseph Labelle, ou Joe Labelle pour les intimes. Fin du mois de novembre 1930, M. Joe Labelle, c'est un trappeur. Il trappe pour des peaux. Il chasse le petit gibier pour récupérer les peaux et les revendre par la suite. Et M. Labelle a l'habitude, dans son parcours, quand il va vérifier ses pièges, quand il va vérifier ses fameuses trappes, il récupère ses animaux. Et après ça, il va faire un petit passage dans un village qui est sur les berges du lac Anjikuni. Petit village d'une trentaine d'habitants, c'est des Inuits qui sont très accueillants. Donc, quand il y a des chasseurs, quand il y a des trappeurs qui passent dans le secteur où ils sont, les Inuits accueillent les gens à bras ouverts, vont les loger, vont les héberger, leur permettre de se réchauffer, de manger un morceau, de prendre une pause avant de repartir et de s'en aller au prochain poste de traite ou au prochain village qui est quand même assez loin. C'est très, très, très isolé l'endroit où on se trouve actuellement. Alors, aux alentours du 26 novembre 1930, M. Joe Labelle vient de finir une partie de son parcours et là, il s'approche de ce fameux village sur les berges du lac Anjikuni, et il décide qu'il va faire une petite pause. Il va s'arrêter, puis il va aller les voir, les saluer, aller se reposer un peu, puis il a même l'intention de passer la nuit dans le village. Et là, en s'approchant du village, il voit le village, il voit les habitations, il voit même la fumée qui sort par les cheminées des différentes habitations. Il s'approche du village, mais là, il y a un drôle de sentiment. Le village, il est là, les maisons ont l'air habitées, mais il y a un drôle de pressentiment, il se passe quelque chose, il se rend compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'activité nulle part. Habituellement, bon, c'est une trentaine d'habitants, c'est un très petit village, mais il va y avoir des enfants qui courent, des chiens de traîneau là, qui vont se promener, qui vont hurler, qui vont japper. Il y a des hommes, des femmes qui vont se promener, il y en a qui vont, bon, certains qui vont être en train de traîner une proie pour bon, la dépecer. Il y en a qui vont travailler à l'extérieur, il y en a qui vont traîner du bois, préparer du bois de chauffage. Là, il ne voit rien, rien, rien de ça. Le village a l'air habité, mais il n'y a aucune activité visible à l'extérieur du village quand il s'approche.
OK, puis c'était un village avec lequel il avait déjà fraternisé. Là.
Il les connaissait, puis il était connu dans le village. Donc, c'était pas la première fois qu'il passait là. Il avait l'habitude de s'arrêter dans ce village-là quand il faisait son parcours pour aller chercher ses proies, pour aller voir ses pièges, pour aller récupérer le petit gibier. Alors, c'était pas la première fois qu'il s'arrêtait là. C'est la raison pour laquelle il réalise en s'approchant qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui marche pas.
Donc là, ça, c'est le 26 novembre 1930, puis tu disais qu'il y avait de la boucane aussi, il y a de la fumée, j'ai entendu.
Oui, ben c'est ça. Il voit que dans les habitations, il y a de la fumée qui sort, il y a du bois, il y a du chauffage, on fait des feux. Il voit qu'il y a eu de l'activité, il y a de l'activité, il se passe quelque chose, mais personne n'est à l'extérieur. Donc là, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il commence à avoir une espèce de malaise. Là. C'est comme... c'est pas normal. Ça se peut pas que les 30 soient tous dans leur maison ou dans leur habitation, dans leur tente, dans leur igloo. Dans... Ça se peut juste pas. Ça se peut pas. Alors, il s'approche, et là, quand il arrive sur place, ça confirme un peu son sentiment. Il y a rien du tout. C'est un silence, un calme plat, un calme qui est étouffant. Pas de bruit, pas d'enfant qui crie, pas de chien. Il n'y a rien du tout. Et là, il comprend qu'il se passe quelque chose.
Oh, OK, OK. Donc, on part en force. C'est quoi déjà son nom? Joe?
Joe Labelle, Joseph Labelle, Joe pour les intimes.
OK, puis lui, c'était-tu un Français?
C'est ça. Il y avait une communauté francophone dans ce secteur-là. Au Manitoba, juste en bas, il y avait aussi des communautés francophones. Donc, c'est peut-être pas un francophone, mais il y a beaucoup de noms de descendance francophone à cette époque-là dans le nord de l'Alberta et dans le sud des territoires du Nord-Ouest, où maintenant c'est le territoire du Nunavut. Alors oui, il y a beaucoup de noms francophones qui reviennent là, à l'occasion dans l'histoire.
Mm-hmm. Donc, personne à l'extérieur, c'est confirmé.
Et voilà. Alors là, il se dit que ça se peut pas. Il se passe quelque chose, Tristan. Voyons donc, on peut pas arriver dans un village, même si c'est juste 30 habitants, et que ce soit un silence de mort complet, silence et calme, qui est pas rassurant du tout, là, dans le cas de M. Labelle. Alors, ce qu'il va faire, lui, il commence par faire le tour du village. Et là, il se rend compte que, il y a des braises dans un feu qui a été brûlé il n'y a pas longtemps. D'un autre coin, il va trouver un bol avec de la nourriture à l'intérieur, que la nourriture est fraîchement faite. Ce n'est pas de la nourriture qui est passée date. Il va voir un peu plus loin quelqu'un qui a laissé son manteau à l'extérieur de son habitation. Ensuite de ça, il se rend compte que, ça se peut pas que les gens aient laissé traîner ça comme ça, là. Alors, il commence à rentrer dans les résidences, dans les différentes habitations. Et là, il se rend compte qu'il y a personne. Il n'y a juste personne dans le village, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et pire que ça, dans certaines habitations, il va trouver des feux encore en train de brûler, encore en train de fumer, avec un chaudron de nourriture dessus, avec des pots pour s'habiller, pour se réchauffer, qui sont encore là, des armes, Tristan. Un Inuit à cette époque-là, dans ce secteur-là, ne quitte jamais, jamais, jamais le village sans avoir son arme avec lui. Et là, il trouve des armes, il trouve des réserves de nourriture. Tout laisse à croire que les gens devraient être là ou comptent revenir, mais que tout le monde soit parti en même temps et ait laissé tout ça derrière, ça fait juste aucun sens pour lui.
Ben oui, puis tout de suite, là, on en a parlé en début d'émission, là, dans toutes les disparitions, ça me fait vraiment beaucoup penser à celle des Aztèques. Corrigez-moi si je me trompe par rapport aux, c'est pas les Mayas, là, ou les Incas, ou les Aztèques. Il me semble que c'est les Aztèques, mais je suis pas un expert du tout dans ce domaine-là. Mais, tu sais, là, il y a un peuple, là, qui a disparu, Jason, oui, comme ça. Puis c'est exactement ce que tu nous racontes là, les bols de nourriture à moitié pleins, encore de la braise dans le feu, puis aucun signe de fuite. Donc, c'est vraiment comme si ils étaient disparus. Ils n'ont pas fui vers le nord, fui vers l'ouest, en récupérant tout leur matériel, puis en disant « Fuyez !» On verrait des traces de pas dans le sol et tout. On pourrait identifier assez rapidement, pas besoin d'être un rôdeur, ni pas besoin d'être Aragorn dans le Seigneur des Anneaux pour détecter qu'un peuple a fui. Ça serait visible.
Habituellement, c'est ça. Tu vas remarquer que les choses sont pas à leur place tout à fait. Il y a quelque chose qui cloche dans la disposition des choses. Hop, il y a une habitation qui est détruite ou il y a des tentes. C'est un peuple, là, les Inuits, c'est un peuple qui souvent changeait de place selon le gibier. Alors, c'était pas des maisons là, avec une fondation, c'était souvent des tentes, des igloos. On prenait les moyens du bord pour faire nos habitations. Alors, c'était pas des choses super solides. S'il y a eu une bagarre, s'il y a eu un combat, si on a dû quitter là, en panique, les choses ne seraient pas à leur place. Là, les chaudrons sont sur le feu, les pots sont accrochés, les armes sont à côté sur le bord de la porte, comme ça devrait être pour être rapidement prise si un ours arrive, par exemple. Tout est à sa place, sauf les gens.
Oh my God, c'est quand même épeurant. Là, on prend en compte, je me mets à la place de Joe. c'est comme un frisson qui te passe dans le dos là, à ce moment-là. Là,
ben écoute, c'est, oui, parce que moi, je veux dire, la semaine dernière, on a parlé de la chambre 1046. Hein, quand on fait la découverte dans la chambre de M. Owen qui est blessé gravement, c'est très graphique. Hein, on a parlé du sang, ses murs au plafond, la baignoire, il est amoché, tout ça. C'est très graphique. Mais ça, ça me dérange moins que l'histoire de M. Joe Labelle qui arrive d'un village puis qu'il n'y a plus personne, mais que tout le reste est là, à sa place. Ça, ben oui, là, ça vient me chercher bien plus.
Ben oui, puis sûrement que ça vous est déjà arrivé à tout le monde. Vous nous écoutez en ce moment, Jason, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé à toi aussi, d'arriver à un moment là, dans ta vie, dans un quartier, dans une route, où il y a plein de maisons, il y a plein d'habitations, mais tu vois personne pendant un bon moment. Tu sais, juste assez longtemps pour que tu commences à te questionner, coudon. Je suis-tu tout seul dans ce quartier-là? Y a-tu une alerte, une catastrophe que je ne sais pas, je ne suis pas au courant?
Mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est le hasard qui fait ça. Hein. On arrive dans un quartier où, techniquement, il devrait avoir un peu d'activité, mais le 5 minutes où on arrive, ça donne qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de passage, il n'y a pas personne en vélo, il n'y a pas personne sur son balcon qui fait du bruit. On arrive là, puis pendant quelques minutes, il n'y a absolument rien. Et c'est dérangeant. On est habitué à vivre dans le bruit, à avoir des voitures qui passent, même dans les petits villages, les petits endroits. Il y a quand même des voitures qui passent, il y a des enfants qui jouent dehors, il y a des chiens qui jappent au loin. Et là, quand on arrive quelque part, il n'y a comme pas cet habillage sonore-là, et puis qu'il n'y a pas de mouvement. Notre cerveau, il dit, c'est pas normal. C'est comme si on était dans un décor de pièces de théâtre. Moi, c'est comme ça que je le vis. Quand ça arrive, ces moments-là, c'est comme si c'était... C'est irréel, je suis dans un décor, c'est pas normal ce qui se passe là, puis ça dure 30 secondes, une minute, deux minutes, dépendamment, là. Mais il y a un malaise, il y a un petit malaise qui s'installe pendant ces quelques secondes-là, qui semblent très longues des fois.
Absolument, donc Joe Labelle, là, lui, il vient de découvrir ça, puis j'imagine le frisson qu'il y a dans le dos, qui traverse les la colonne vertébrale, je sais pas pourquoi, mais j'ai le bruit dans ma tête, Jason, d'un vent... Juste pour ajouter un peu.
Là, de... Ben oui, ben c'est ça. Alors, évidemment, c'est notre cerveau se met à travailler hein, dans ce temps-là. Souvent, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on voit pas. Et là, c'est notre cerveau qui va nous jouer des tours. C'est notre cerveau qui va venir nous créer une peur qui devient irraisonnée à un moment donné parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur actuellement. Il n'y a rien qui se passe. En fait, il manque des affaires au lieu d'en avoir des choses qui lui font peur. Mais il commence à prendre panique, le M. Joe Labelle. Il commence à trouver ça vraiment pas le fun. Alors là, il se demande, il dit, ben, ils doivent avoir quitté. Il est arrivé quelque chose, ils ont dû quitter. Alors là, il sort dehors, continue à faire le tour du village. Et là, il se rend compte que les canaux sont sur le lac. Les canaux n'ont pas été utilisés. Les canaux sont là. Alors, ils n'ont pas pris les canaux. Bon, premier indice. Deuxième indice, il se rend compte que les traîneaux à chiens sont encore là, mais ils ne trouvent pas les chiens.
Oh my God, OK.
Donc ça aussi, s'ils sont partis en catastrophe, s'ils sont partis en urgence, et ils ont pris les traîneaux, ils ont pris les chiens. Là, pourquoi les traîneaux sont là, mais il n'y a pas de chiens, il ne les entend pas, il ne les voit pas.
Il continue
à faire un peu son exploration, commence à être vraiment paniqué, là, commence à... Il se force à rester, là, parce que lui, si c'était juste de lui, il prendrait ses jambes à son cou puis il s'en irait au prochain poste de traite où il y a un télégraphe et là, il pourrait appeler des secours. Mais il se force à rester, il veut en avoir le cœur net pour être capable de donner toutes les informations nécessaires quand il va contacter les secours. Alors, il continue à explorer un peu et là, macabre découverte, Tristan, le petit village a un petit cimetière parce que bon, on habite loin, on habite dans une région totalement isolée et il y a des gens qui décèdent des fois et là, on n'ira pas les enterrer dans un village, on les enterre sur place. Alors, on se fait un petit cimetière avec des petites pierres tombales et là, M. Joe Labelle trouve le cimetière, les tombes ont été vidées. Malgré que le sol est dur, le sol est gelé, c'est du pergélisol. Les tombes ont été vidées et les pierres ont été empilées une par-dessus l'autre de manière très humaine sur le côté et on a déterré les terres, les tombes et il n'y a plus rien.
Donc on a les squelettes, les cadavres, entre guillemets, ne sont plus dans les tombes.
Tout est disparu.
Ah ouais, ben voyons donc, OK.
Monsieur Labelle continue son exploration. Et là, il arrive à un endroit où il y a un monticule de neige, mais il voit qu'il y a des cordes attachées sur un arbre. Alors, il suit les cordes enlève la neige un peu et il trouve les chiens. Les chiens sont enterrés dans la neige, ils sont morts, les chiens de traîneau. Jamais, 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 jamais un Inuit laisserait son chien mourir comme ça. Jamais. C'est comme votre voiture. Hein? On ne laisse pas notre voiture mourir comme ça puis dire « Ben, coudonc, je marcherai. » On ne peut pas faire ça et on est en ville. Imaginez dans la nature où c'est votre moyen de transport, mais c'est aussi votre moyen de survivre votre transport avec vos chiens. Personne ne ferait ça dans ce contexte-là. Alors ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase, Tristan. Joe Labelle dit « C'est assez. » Je m'en vais. Moi, je peux pas rester ici. Je suis en panique, là. Alors là, il va marcher jusqu'au poste de traite où là, il va pouvoir contacter les autorités. Il envoie un message à la Gendarmerie royale du Canada, la fameuse police montée, pour leur dire, écoutez, il se passe de quoi au lac Njikuni? Le village est vide. Les chiens sont morts. Le cimetière a été déterré. Je ne sais pas ce qui se passe, mais envoyez quelqu'un, ça presse.
Oh my God, je t'avoue que les deux derniers éléments, le cimetière, les sépultures vidées, là, les squelettes et les cadavres disparus, plus les chiens retrouvés au pied d'un arbre avec des cordes, tu disais, donc il a suivi
oui,
des cordes.
Les chiens étaient attachés à l'arbre, carrément, là, ils ont attaché les chiens après l'arbre et les chiens sont morts de faim. Là.
Ok, oui, oh my God. C'est assez macabre, spécial tout ça. Donc, on s'en va dans un territoire vraiment mystérieux. Je sais pas que ça fait. On est rendu à combien de temps, Jason? Est-ce qu'on fait une courte pause?
Non, on va continuer. On va terminer la partie de l'histoire. Et après ça, la deuxième partie, on va explorer les différentes théories à jusqu'à aujourd'hui parce que c'est toujours discuté. Là. C'est toujours un sujet qui est chaud. Alors, on va terminer l'histoire. Tristan, là, il a contacté les autorités.
Ouais,
la Gendarmerie royale du Canada a été contactée. On envoie des gens sur place et là, on se rend compte que bel et bien, quelque chose qui se passe dans le village, il n'y a plus personne, les chiens sont morts, le cimetière a été déterré, on ne comprend rien. Et là, on dit que pas la Sûreté du Québec, là, ça va être une guerre de juridiction, la Gendarmerie royale, la police montée, fait venir des traqueurs, des gens qui des chasseurs qui sont habiles pour traquer des proies. Et on leur dit, là, essayez de voir où est-ce qu'ils sont partis, ils ne sont plus là. Alors, il faut trouver dans quelle direction ils sont partis. Ils sont peut-être en détresse. Hein? On a 30 personnes, là, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, mais aussi des vieillards. On a besoin de les retrouver. C'est dangereux de les laisser comme ça. Alors, on fait venir des chasseurs qui sont bons pour traquer le gibier. On dit, écoutez, trouvez leurs traces. Et là, on doit les suivre, on doit les retracer. Et là, on dit qu'ils n'ont rien trouvé, n'ont pas trouvé aucune piste quittant le village.
OK, ben c'est ça que j'avais comme amené comme point en début. Là. Puis on a quand même créé une équipe. Là. La Gendarmerie royale du Canada a créé une petite équipe avec des traqueurs, des gens pour essayer de retrouver les pistes pour voir peut-être une direction dans laquelle les habitants de ce village-là seraient allés. Mais aucune trace au sol. Ça veut dire que, rendu là, je me dis, coudonc, sont partis vers le ciel.
Ben,
c'est comme
écoute...
le jeu. Je pense à comme, tu sais, bon, on a tellement couvert de trucs d'extraterrestres, de Jason, je suis jamais porté à croire à toutes ces histoires, mais j'imagine que vous le dites dans votre tête aussi, là, les Aztèques, quand ils ont disparu, c'était une des théories, tu sais, un enlèvement, tu sais, de tout le monde, là, une grosse soucoupe volante, et bref, que les extraterrestres auraient enlevé ces gens-là, puis là, vous pouvez rire de moi, là, allez-y.
Ben, écoute, à un moment donné, quand il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de trace, il faut trouver une théorie de qu'est-ce qui s'est passé, puis présentement, avec ce qu'on a comme information, les options réduisent de plus en plus, là. Il n'en reste pas beaucoup de chance là, de trouver une solution. Alors, les policiers qui vont dire, ben, écoutez, on va enquêter, on va trouver une raison à tout ça. On continue, on lance quand même un avis de recherche. On continue à demander aux chasseurs, gardez les yeux ouverts, si vous voyez des traces, ben, écoutez, là, faites-nous signe, on va venir en équipe, on va faire une recherche dans le secteur où vous allez avoir trouvé des traces. On continue à garder espoir qu'on va finir par trouver quelque chose. Et comme on est dans un endroit extrêmement isolé, Tristan, il n'y a pas beaucoup de gens dans ce coin-là. Il y a les trappeurs qui vont se promener d'une fois de temps en temps, qui vont passer dans ce coin-là. Et il y a quelques chasseurs qui ont des cabanes où des fois, ils vont aller passer quelques semaines et rester dans ce coin-là. Alors, on réussit à en trouver un qui était là dans les semaines qui ont précédé la disparition ou la découverte du village vide. Et on va aller le voir, lui et ses deux fils, pour lui demander « Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange qui s'est passé là, dans les dernières semaines? » Alors, on va aller voir un monsieur qui s'appelle Armand Laurent. Je t'avais dit qu'il y avait beaucoup de noms francophones, là.
Oui.
Monsieur Armand Laurent et ses deux fils ont une cabane pas très loin du village. Ne voient pas le village, mais quand ils se promènent, ben, de temps en temps, bon, ils ont un visuel du village là, au loin. Alors, on va aller voir, on leur dit, écoutez, avez-vous remarqué quelque chose? Parce que là, on sait pas, on sait plus où regarder, nous autres, là. Il n'y a pas de traces. Les chiens sont morts. Les traîneaux sont là. Les canots sont là. Ils ont tout laissé derrière eux, incluant leurs armes. Et qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vu quelque chose? Et là, Tristan, ça va venir appuyer un peu la théorie que tu étais un peu gêné d'avancer. Monsieur Laurent et ses deux fils disent, écoute, la semaine passée, on était dehors, on a vu un objet cylindrique très brillant dans le ciel. On ne sait pas ce que c'est. Puis comme on est tout seul dans notre coin, on ne pouvait pas vraiment signaler à qui que ce soit, mais cet objet-là se déplaçait dans le ciel. Et on ne sait pas ce que c'est. Mais c'était très brillant, très gros. Et on n'a jamais vu quelque chose comme ça dans le ciel. Alors, on ne le sait pas, c'est quoi. Et là, les policiers disent, ben, écoutez, ça s'est-tu déplacé? Est-ce que ça s'est en allé quelque part? Et là, M. Laurent va le dire, c'est parti vers le village du lac
Anjikuni. Oh my God! God damn it!
Hey, voilà! Alors là, écoute, il ne nous reste pas beaucoup de théories possibles hein, quand on prend tous les indices qu'on a. Qu'est-ce qui a bien pu se passer au village d'Anjikuni avec ce témoignage-là? Ça vient sceller un peu la conclusion de l'histoire. On ne retrouvera jamais personne. On n'a absolument aucun suivi là, réel, je parle matériel. Là. Bon, est-ce qu'on a retrouvé des gens? Est-ce qu'on a retrouvé des cadavres? Est-ce qu'on a retrouvé des vêtements, des objets? Rien, rien, rien du tout. Ils sont disparus de la surface de la Terre, Tristan.
Oh là là, ça fait peur. Écoute, Jason, j'ai deux autres théories, puis il y a la théorie de l'objet volant non identifié qu'il faut qu'on détaille, qu'on parle. Donc, courte pause, puis après ça, on va explorer toutes les théories possibles. Je t'avoue que j'aime bien cette histoire, Jason.
Ben, moi, j'aime beaucoup ces histoires-là parce que moi, j'aime des histoires qui vont utiliser ma propre imagination pour me faire peur. Hein, un film d'horreur avec quelqu'un qui a une scie à chaîne puis qui découpe tout le monde, bon, ça peut devenir divertissant là, si c'est bien fait, mais j'aurais pas peur. Mais un film qui va juste me suggérer des choses et qui va faire en sorte que mon imagination prend la relève par après et que mon cerveau fait le travail à la place des images, ça va réussir souvent à venir me chercher pas mal plus.
Ben oui, moi aussi. Puis tu vois, c'est le genre d'affaire que je suis pas mal sûr que si vous vous ramassez dans le bois, tu sais, le soir, seul, ou bon, vous êtes peu importe pour la raison, là, en activité pédestre ou quoi que ce soit, puis l'hiver en plus, là, c'est pour ajouter au décor. Là, je suis pas mal sûr que ça va peut-être me trotter dans la tête, cette histoire-là. T'sais.
Ben écoute, on a fait. Je vous ai raconté l'histoire telle qu'elle circule. Et là, on va faire une pause et on va explorer les différentes théories et il y a toute une histoire. À propos de cette histoire, l'histoire a sa propre histoire. Alors là, on va commencer à décortiquer un peu cette histoire-là, comment elle a commencé à circuler et les différentes conclusions qu'on a eues au travers des années. Parce que on parle de 1930, mais on peut remonter jusqu'à 2013, la dernière fois, et même après 2013, je pense que c'est l'année suivante, 2014, où il y a eu des rebondissements dans cette histoire-là. Alors c'est très intéressant aussi de décortiquer et d'analyser cette fameuse histoire. Tu vas voir, je suis certain que ça va te faire triper cette deuxième partie à l'histoire.
Ah ben, excellent. Donc, une deuxième partie qui promet. Donc, courte pause et on revient tout de suite après.
Excellent.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Vous aimeriez avoir des planchers toujours propres, mais vous manquez de temps pour passer l'aspirateur? Ne craignez rien, car PP Sonic vous présente Bobby. Le robot aspirateur passif-agressif.
Une chance que je suis là pour vous sauver de vivre dans votre crasse.
Bobby, le robot aspirateur passif-agressif, entre en action dès qu'une miette touche le sol.
Laisse faire, penche-toi pas, je vais le ramasser ton dégât. Gros lâche.
Ne vous souciez plus de faire des dégâts en mangeant ou en cuisinant, car Bobby s'occupe de tout.
Faites surtout pas d'efforts. Bobby est là pour vous torcher.
le robot aspirateur passif-agressif Bobby, disponible chez tous les détaillants.
Vous ne payez rien pour attendre. Vous allez moins rire quand on va contrôler le monde.
Hein, quoi?
Hein?
Qu'est-ce que t'as dit?
Quoi?
À propos de conquérir le monde, là?
Oh, une miette.
Et nous sommes de retour à ce deuxième épisode de la saison 4 de Dossier Bizarre. Merci à vous d'être là, de nous écouter dans votre voiture, dans votre salon, avec vos amis, seul à la maison. Jason, tu nous parles d'un sujet qui fout la chienne. je le dis. J'utilise cette expression un peu plus osée, mais ouais, ça fait peur. Je pense au parc des Laurentides au Québec. Si je me retrouvais dans le bois l'hiver tout seul, je pense que je penserais à cette histoire-là. Donc, on parle d'une communauté inuite là, qui a complètement disparu au nord de l'Alberta en 1930. Et Joe Labelle, là, qui est un trappeur qui arrive sur place, il y a encore des feux, un crépitement, là, il y a encore de la braise chaude.
Le village est vivant, mais il n'y a plus d'habitants.
C'est ça, exactement. Puis là, on a même enquêté, il y a la gendarmerie qui est venue, puis on a découvert vraiment aucune trace, en fait. Là. Ils ont disparu. Quand on dit disparu, la définition du mot disparu est excellente dans ce contexte-là.
Et oui.
On n'est pas capable de trouver des indices. Là.
Le seul mot qui me vient, c'est « pouf ». Ils sont plus là. « Pouf », parti. C'est comme ça. Mais là, écoute, l'histoire que je vous ai racontée, Tristan, c'est l'histoire à l'origine qui circule depuis on ne sait pas vraiment quand. Parce que depuis 2003, Internet commençait vraiment à être très, très présent dans nos vies, commençait à avoir des groupes de discussion, et ce genre d'histoire-là, de mystère non résolu, va chercher beaucoup les gens. C'est la raison, une des raisons pour laquelle notre balado est si populaire d'ailleurs, c'est que ça va chercher les gens. Alors là, on est ressorti, cette histoire-là, on l'a repris, on l'a sorti des cartons pour dire... On n'a jamais vraiment analysé cette histoire-là. On a pris pour acquis qu'elle existait et qu'elle était là et que ça s'était passé. Mais est-ce qu'on a tenté de remonter à l'origine de l'histoire? Et là, ça devient très intéressant, Tristan, parce que cette histoire-là a eu une longue durée de vie et on l'a comme relancée régulièrement dans l'histoire pour arriver avec l'histoire que je vous ai racontée, là, qui est à peu près la version finale. La seule et unique véritable différence, c'est que dans sa dernière version, cette histoire-là, le village, c'est plus 30 habitants, c'est 2000 habitants.
Ah, OK.
Mais l'histoire a évolué au fil des années et cette histoire-là a pris une vie d'elle-même et s'est modifiée tranquillement et est devenue de plus en plus impressionnante. On a rajouté des éléments, on a rajouté un peu de garniture autour pour la rendre plus crédible ou plus dérangeante. Alors là, en 2003, on a commencé à faire des vérifications. On a commencé à regarder, OK, là, moi, je suis en 2003, voici la version de l'histoire que j'ai. J'ai le nom du village, j'ai l'année, j'ai l'endroit géographique. Donc, à partir de là, je peux essayer de retracer des éléments où il y aurait des traces de cette histoire-là. Alors, on a commencé à refaire le chemin inverse. Donc, à partir de 2003, on a commencé à reculer dans le temps puis tenter de retrouver les endroits où on pouvait voir des traces de cette histoire-là ou des mentions de cette histoire-là. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir l'évolution d'une histoire telle que celle-là. Et ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas vraie ou est vraie, mais on voit que ça se modifie avec le temps, une histoire, et qu'elle peut prendre des directions des fois où on en rajoute un petit peu, on en rajoute un petit peu. Moi, je la raconte à quelqu'un autour d'un feu, puis là, je vais la raconter avec « hop, je vais rajouter un élément parce que ça fit avec le décor ici, ça va faire peur aux jeunes dans mon camp de vacances. » Et là, l'histoire, comme ça, continue à se modifier et c'est un peu la traduction, pas la traduction, mais la tradition orale. Mais là, on a des traces de cette histoire-là dans des endroits précis. La dernière apparition écrite de cette histoire-là, ça apparaît dans le livre Majestic de Whitley Strieber, paru en 1989. C'est dans cette version-là de l'histoire, Tristan, qu'il y a 2000 habitants dans le village et tous les éléments que j'ai présentés dans la première partie y sont. Alors, le cimetière déterré, les chiens qui ont été attachés, les habitations où il y a des feux encore actifs, avec des chaudrons qui bouillent, les pots laissés derrière, les armes laissées derrière, tout y est dans celle-là.
OK, donc c'était un peu... je sais pas pourquoi je pense au Kraken, Jason.
Oui.
Quand on a fait l'histoire du Kraken, il y a des auteurs qui créaient des livres semi-vrai, là, tu sais, il y avait pas
de... Oui, c'est ça, des semi-documentaires,
pas... C'est ça, c'était comme pas clair si c'était science-fiction ou si c'était basé sur la réalité ou on... c'était comme juste pour propager la rumeur.
Voilà.
Donc, on sent que c'était un peu ça, là, ce livre-là.
Ben, voilà, alors, on continue avec Whitley Strieber, donc en 1989, qui est la plus récente apparition de cette histoire-là par écrit dans un livre, un document quelconque. On l'a en 1983, dans un livre écrit par Roger Bohr et Nigel Blundell qui s'appelle « The World's Greatest UFO Mysteries », les plus grands mystères liés aux ovnis. Alors, on consacre deux pages à l'histoire, la page 86 et 87. Le livre a été édité en 1983, publié pour la première fois en 1983. Et on revient sur cette histoire-là. Là, à ce moment-là, à peu près tous les éléments, ils sont encore, mais là, il y a 1200 habitants dans le village. On a un petit peu moins.
OK, mon Dieu. Fait que si je comprends bien, de 89 à 83, 800 personnes de moins, ça va, on risque de descendre comme ça.
Voilà.
Au fil des explications. Mais donc, OK, donc 83, 89, là, on remonte vraiment, comme tu disais, vers 1930. Là, c'est intéressant de relever les sources comme ça.
Ben oui, on recule. Le problème avec ça, Tristan, c'est qu'en 89, Whitley Strieber et en 83, Roger Bohr, Nigel Blundell ne citent aucune source. Ils font juste raconter l'histoire.
Ah, c'est ça, OK. C'est
ne
ça, comme
citent le... pas du tout d'où ils l'apprennent, l'histoire.
C'est ça, je comprends.
Ensuite, en 1973, donc 10 ans avant, on a un livre qui sort en France sous la plume de Patrice Gaston qui cite Bergier dans Disparition mystérieuse en 1973. Encore une fois, on consacre deux pages à l'histoire, la page 87-88 du livre Disparition mystérieuse. Et là, on est à peu près à une trentaine d'habitants et à peu près tous les éléments s'y trouvent encore. Fait qu'on est un peu plus près de la réalité, mais il reste encore un peu de fabulation au travers de ça. On recule encore dans le temps. En 1970, le livre « Les extraterrestres dans l'histoire » relate encore une fois l'histoire sur deux pages. Et là, on enlève certains éléments, dont le cimetière et les chiens. Et il y a 30 habitants. Alors là, on se concentre surtout sur le fait que on trouve des choses dans les habitations, on trouve des pots, on trouve des armes, on trouve la nourriture, les feux, mais il n'y a aucune mention faite du cimetière, il n'y a aucune mention faite des chiens et... il n'y a aucune mention de fait du fameux monsieur Laurent qui a vu un objet dans le ciel.
Ah, OK, OK, d'accord.
Et finalement, on recule, et là, on est toujours en 2003 et 2013, donc ça, c'est des sources que durant ces 10 années-là, on a réussi à trouver. Et là, on pense avoir trouvé la source originale de cette histoire-là. Donc, de où elle vient, cette fameuse histoire.
Ah, oui.
Et c'est pas en 1930, Tristan, c'est en 1959.
Ah, OK, OK. C'était-tu le petit-fils de Joe Labelle?
Non, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Plus étrange que la science ». Et c'est un monsieur Frank Edwards en 1959. Et on dit que c'est la toute première source de cette histoire.
OK, puis cette source-là... Je suis en train de me dire, est-ce qu'on sait comment il a découvert cette histoire-là?
Ben écoute, là, comme je te dis, on est entre 2003 et 2013, parce que là, je sens la déception dans ta voix, là, mais attends, il y a des rebondissements. Il faut attendre encore un peu. Alors, en 2013, il y a deux personnes ou trois personnes, je ne me souviens plus, qui faisaient une balado. C'était dans les premiers balbutiements des balados, qui s'appelait Skeptoïde, donc les sceptiques, et eux démontrent l'histoire au complet en disant: nous avons découvert, hors de tout doute, que la première source de cette histoire-là n'est pas en 1930, mais bien en 1959.
Ah ouais, OK, OK. Donc, en 1930-1959, les témoignages de Joe Labelle se sont transmis un peu de contact en contact.
Mais ça va plus loin que ça. Ce qu'ils affirment, eux, c'est que M. Frank Edwards, en 1959, dans son livre, a inventé de toutes pièces l'histoire.
Oh my God!
Qu'il n'y a aucune source crédible, qu'il n'y a jamais eu de village aux abords du lac Njikuni, et que son histoire est une fabulation de A à Z qui n'a aucune base dans la réalité, qu'en 1959, il a carrément inventé son histoire.
Oh non!
Et ce qu'on fait pour confirmer ses dires, Tristan, c'est qu'on contacte la Gendarmerie royale du Canada. Alors, on appelle là-bas et on leur dit, écoutez, on est en train d'enquêter sur une histoire, c'est pour des fins de divertissement, mais on veut aller aux sources. Et on a une information qui dit que dans les années 30, en fait, en novembre 1930, la Gendarmerie royale du Canada a dépêché des enquêteurs, des gens de votre équipe dans le secteur du lac Njikuni pour aller enquêter sur une disparition dans un village.
Alors, oh là, my God!
Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada disent, écoutez, moi, je trouve rien, mais on a des historiens. Alors oui, ça existe, le travail d'historien dans un corps de police pour justement permettre de retracer des événements passés comme ça. Alors, on mandate les historiens de la Gendarmerie royale du Canada de retracer cette histoire. Est-ce que vraiment on a participé comme corps de police, comme force de l'ordre? Est-ce qu'on a participé à des recherches, à une enquête quelconque? Est-ce qu'on a eu des signalements? Est-ce que M. Joe Labelle a déjà existé? Est-ce que M. Armand Laurent et ses deux fils ont déjà existé? Alors, on mandate les historiens de la Gendarmerie royale du Canada de retracer cette histoire-là. Est-ce qu'on y a participé, oui ou non? Et la réponse qu'on reçoit des historiens, Tristan, vient confirmer l'information comme quoi cette histoire-là n'existait pas avant 1959.
Ah, OK, attends, fait que là que cette histoire n'existait pas avant 1959, fait que l'historien découvre que c'était un canular?
Ben, en fait, l'historien de la Gendarmerie royale du Canada dit que la seule source qu'il réussit à trouver de cette histoire-là, c'est la même, en fait, que les animateurs de la balado Skeptoïde, et que eux, de leur côté, n'ont aucun rapport, n'ont rien de concret comme quoi il y aurait eu une opération quelconque aux abords du lac Njikuni. Donc, ça vient confirmer les dires des animateurs de cette balado-là que l'histoire est un canular de A à Z et que on dit même Joe Labelle a existé, mais en 1930, il venait d'avoir son permis de trappeur, puis il n'était même pas dans ce secteur-là. Puis alors, on vient comme confirmer un peu que toute cette histoire-là est un canular.
Ah, OK. Mais j'ai comme l'impression que tu vas nous amener
ben là, écoute, j'aime ça faire durer le suspense un peu.
Oui, parce que mais quand même, c'est quand même quelque chose, là, parce que...
C'est une belle histoire, puis là, je viens de tout dégonfler votre enthousiasme, là.
Comment ça?
C'est une belle histoire, puis là, je viens de vous dire qu'elle existe.
Mais
pas,
oui,
finalement.
C'est ça, mais pour vrai, je t'avoue que ça fait comme 5 minutes que je suis. Mais là.
Écoute, on a continué quand même à étudier le phénomène de l'histoire parce qu'on a dit, bon, ben OK, c'est pas un événement réel, mais il y a quand même beaucoup de choses autour de ça. Des éléments qui sont ressortis parce que c'est quand même, ils n'ont pas fait un mauvais travail, le Skeptoïde, puis je les critique pas du tout, là. Ils ont vraiment trouvé de l'information concrète. La Gendarmerie royale est venue confirmer ce qu'eux avaient découvert. Donc, ils s'en allaient dans la bonne direction avec l'information qu'ils avaient. Ce qu'ils ont découvert aussi, puis vous allez vous souvenir de cette personne-là peut-être, parce qu'on en a déjà parlé. En 1977, Tristan, Madame Betty Hill. Souvenez-vous de Madame Betty Hill avec son mari Barney Hill?
Ben oui, la première disparition, le premier enlèvement.
Et voilà, ils sont les premiers à avoir sorti publiquement pour dire « Nous avons été enlevés par des extraterrestres ». Alors, en 1977, Mme Betty Hill vient d'entendre parler de cette histoire-là. Elle dit « Hey, mais moi, je sais ce qui s'est passé ». Elle écrit une lettre à un magazine et elle affirme avoir rencontré avec son mari, un ancien officier de la police montée, qui lui a dit avoir enquêté pendant près de 9 ans sur la disparition du lac Njikuni et qui était convaincu que les villageois avaient été enlevés par des extraterrestres.
Oh my God, OK. Puis là, si je comprends bien, l'agent en question qui a enquêté, c'était-tu un Américain ou c'était un Canadien?
C'était un Canadien, un membre de la police montée, Canadien. Et où elle l'a rencontré, on le sait pas. Mais bon, elle vient dire que, écoute, on a rencontré un policier, nous autres, puis nous l'a dit, pendant 9 ans, il a enquêté sur cette disparition-là et toutes les preuves qu'ils ont amassées. La seule conclusion possible, c'est les extraterrestres.
OK, c'est ça, parce que Betty puis Barney Hill, on le rappelle, là, ce sont le premier couple qui s'est fait enlever, en fait, selon bon, leur explication par des extraterrestres. Ils étaient en voyage au Canada, ils revenaient aux États-Unis, puis c'est là que ça se serait passé, mais après ça, comme j'imagine qu'ils ont collaboré, parlé avec plein d'experts sur
ouais,
le sujet.
Ben là, ils sont devenus comme des héros, hein, des ufologues, des vedettes ça. Du monde, des extraterrestres, des ovnis. Alors là, ben, on les sollicitait souvent pour avoir leur opinion sur différentes choses. Et eux ont peut-être un peu pris goût à la célébrité aussi, Tristan, et s'impliquaient dans des dossiers comme ça. Alors, je trouvais ça le fun de voir que Mme Betty Hill était ressortie de nulle part dans cette histoire-là et qu'elle avait eu sa propre opinion là, sur ce qui s'était passé. Ben, c'est ça. Donc, Mme Betty Hill, en 1977, a écrit à un magazine, le magazine qui s'appelait Fate à l'époque, et elle a écrit qu'elle, elle avait rencontré un policier qui avait enquêté sur cette histoire et qu'il lui avait confirmé que c'était les extraterrestres.
Donc, les chemins, dans toutes les grosses histoires d'enlèvement et d'ovnis, observation d'ovnis, t'sais, on en a fait pas mal, Jason, puis les chemins se croisent, hein, des fois,
oui.
Comme des intersections, que hop, les grandes histoires se recontacte à certains moments, c'est intéressant.
Oui, absolument. Donc, c'est le fun de ramener des fois, c'est ça, des éléments comme ça qui nous rappellent des épisodes passés. Alors, je trouvais ça bien, bien agréable de revoir Mme Betty Hill. J'avais bien aimé cet épisode-là, d'ailleurs. Ça avait été très agréable de rechercher son histoire. Alors là, on est toujours rendu à, je dirais, la plus récente enquête qu'il y a eu sur le sujet, 2013, la balado Skeptoïde. Et là, leur conclusion à eux, elle est sans appel. L'histoire arrive, naît, vient au monde, existe depuis 1959. Et de 1930 à 1959, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est leur conclusion à eux. Et c'est très tranchant là, comme opinion. Ils sont convaincus. Et ils ont bien fait leur travail, à part peut-être une ou deux mini-lacunes. Mais mini-lacunes qui va venir complètement renverser la situation. L'année suivante, il y a quelqu'un qui écoute leur balado et qui dit « Mais il leur manque un élément important. » Alors, cette personne-là réussit à retracer un article qui était paru le 27 novembre 1930 dans le quotidien The Danville Bee et qui est paru le lendemain dans d'autres quotidiens canadiens, dont Le Pas de Manitoba. Le Pas, c'est le nom de la ville ou du village, là. L-E-espace-P-A, comme un pas quand on marche, et il y avait un petit journal dans ce coin-là. À Halifax, on reprend l'histoire également le 28 novembre, et Tristan, c'est l'histoire de la disparition du village.
Ah ouais, donc là, en plus, tu parles de plusieurs secteurs différents, très, très éloignés quand même au Canada, donc
absolument.
On pourrait dire que ça a fait la une des médias là, nationaux au Canada le lendemain, là, le 27 novembre de 1930. Donc,
et voilà.
OK.
Alors là, même. Cette histoire-là, elle existe bel et bien à la fin du mois de novembre 1930. Alors, on a un journaliste du Danville Bee, un certain monsieur Emmett Kelleher, qui écrit cet article-là et qui raconte avoir parlé avec monsieur Joe Labelle et qui retrace un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Mais là, dans l'article, on se rend compte que l'histoire a changé beaucoup entre le moment où M. Labelle est arrivé dans le village et le moment où, en 1959, probablement qu'en 1959, celui qui a écrit l'histoire, là, qui a commencé à circuler réellement, probablement qu'il a, par hasard, tombé sur cet article de journal-là puis il a dit « Hey, ça fait une belle histoire, ça. » Et il a décidé de la réécrire à sa manière un peu. Alors, dans l'article, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir, c'est que Monsieur Labelle est bel et bien arrivé au village de Njikuni. Alors, la conclusion de la GRC, de la police montée canadienne, qui disait que Monsieur Labelle ne trappait pas dans ce secteur-là puis qu'il n'avait probablement jamais été au lac Njikuni. En effet, il y a été au lac Njikuni et il est arrivé et le village était bel et bien vide.
Ah, OK, OK. Donc, ça, c'était écrit dans le journal.
Voilà, c'est l'article qui nous ramène à ce moment-là. Sauf que tout ce qui est agrémenté autour, donc les feux qui brûlent encore, la nourriture, les réserves de nourriture qui sont pleines, les pots qui sont laissés derrière, les armes qui sont laissées dans les habitations, puis on le sait, là, ils ne quitteraient jamais, jamais, jamais qu'ils mettraient le pied en dehors de leur village sans traîner leurs armes. Tout ça, c'est pas aussi clair, mettons.
OK. C'est intéressant, fait que, tu sais, le dossier de la disparition il est là, Puis c'était assez majeur pour qu'on en parle dans les médias le lendemain. Donc, il y a clairement eu l'histoire de Joe Labelle qui arrive dans le village et qu'il n'y a plus personne. Ça existe. Mais tout le reste, c'est un peu flou.
Ben voilà. Alors, on n'a pas toute cette partie-là là, qui vient dire bon, le cimetière a été déterré, les chiens étaient morts, les canaux étaient encore là, les traîneaux étaient encore là. En fait, on a agrémenté cette histoire-là sans vraiment connaître la culture de ce secteur-là. Parce que bon, on parle des canaux sur le lac, mais Tristan, le 27 novembre, à la hauteur du lac Njikuni, à la hauteur où ils sont, là, sont au sud du territoire du Nord-Ouest, les canaux sont pas à l'eau. Le lac est à peu près 6 pieds de glace.
C'est ça le problème. Le pire là-dedans, c'est que j'y ai pensé. Mon cerveau, ça a passé dans ma tête ça, quand tu m'as parlé des canaux. J'étais comme, my God, je sais pas. Dans ma tête, je sais peut-être que le lac ou je sais pas, la rivière est assez large pour qu'elle gèle pas, mais aussi au Canada, on va se le dire, pas très long avant que tout gèle. Là.
Non, non, absolument. Un lac comme ça, à cette hauteur-là où les froids, là, c'est des froids sibériens, là, on est très au nord, le lac gèle très, très tôt et il gèle très dur. Donc, on laisse pas les canaux à l'eau, ça va les briser. Alors, on les sort avant que le gel prenne. Ensuite de ça, dans l'histoire de 1959, Tristan, quand on décrit les pots qui sont laissés derrière, et là, on va même jusqu'à donner des détails très précis. Là. Une peau de phoque qui est en train d'être réparée, l'aiguille est encore dedans, la dame est en train de faire le point au moment où elle a tout lâché. On voit là, l'aiguille, elle est est en train d'être manipulée. Là. C'est pas presque terminé. Elle n'est pas à la fin. Non, non, elle est en train de coudre au moment où elle lâche tout. Et là, on dit que c'est des peaux de phoque. Mais Tristan, encore une fois, le Manitoba, c'est drette au centre du Canada. Le lac Njikuni est au nord, donc au sud des territoires du Nord-Ouest, avec absolument aucun contact avec la mer. Il n'y en a pas des phoques dans ce coin-là. C'est du caribou.
OK, ouais, je comprends. Là, donc, il y a plusieurs incohérences là, dans le cas de 1959.
Voilà. Et voilà, donc tout ce qui est dans ce secteur-là, tout ce qui est des peaux, c'est des peaux de caribou, des peaux de chevreuil, des peaux d'orignaux, de petits gibiers, mais il n'y a pas de loup marin, il n'y a pas de phoque, ça n'existe pas dans ce secteur-là. On ne peut pas chasser le phoque au lac Njikuni. Ça se peut juste pas. Alors, dans l'histoire de 1959, le monsieur a romancé l'histoire, mais il y a des anachronismes absolument épouvantables comme ça qui se sont insérés. Et c'est une des raisons pourquoi la balado Skeptoïde, on a un peu dit, ben là, écoute, c'est juste incohérent ce qu'il dit, il a tout inventé. Alors, on n'a pas nécessairement peut-être fait l'effort de dire, est-ce qu'il y avait une mini-graine de réalité à l'origine de son histoire? Et là, il a juste tricoté autour. Mais on se rend compte finalement que oui, Joe Labelle a bel et bien visité le village sur les berges du lac Njikuni au mois de novembre 1930 et que le village était bel et bien vide. Mais c'était beaucoup moins impressionnant comme situation que ce qu'on a rapporté par la suite en 1959. Et là, l'histoire n'a fait que s'engraisser par elle-même en passant d'une version à l'autre de 1959 à 1983, où là, vraiment, c'était rendu là, une histoire absolument exceptionnelle. Sauf que, on a quand même, Tristan, on dit entre 24 et 30 personnes qui étaient dans ce village et qui n'y étaient plus quand M. Labelle est arrivé.
Ah, c'est quand même digne de mention, même à un tel point que c'est quand même quelque chose. Si on a retrouvé la une de certains journaux le lendemain, il faut que ça soit quand même big, il faut que ça soit gros, il faut que ça ait marqué un peu l'imaginaire.
Ben oui!
Je trouve ça intéressant aussi le fait que on est allé fouiller là, le balado avec son enquête et tout, on est allé fouiller dans les archives de la GRC. Les historiens ont cherché dans les archives de la GRC et n'ont rien trouvé.
Ben non!
Ben, ils n'ont pas pensé à aller fouiller dans les archives médiatiques des journaux, des anciens journaux. Comme tu disais, ils ont peut-être oublié deux petites affaires qui était très importante. Là,
ben voilà, c'est une petite lacune, mais cette lacune-là fait quand même toute la différence parce que l'histoire a bel et bien existé. Et il y a bel et bien un policier qui aurait été mandaté à aller sur les lieux, mais il n'y a pas de M. Laurent avec son histoire d'extraterrestre, ça n'a pas existé, ça a été ajouté quelque part entre 1959 et 1973, si je ne me trompe pas, où là on a décidé d'ajouter l'élément extraterrestre parce qu'on n'avait comme pas vraiment d'explication. Donc, ça ouvrait la porte à quelqu'un qui voulait y insérer une conclusion extraterrestre. C'était facile de le faire. Alors, tout ce qu'on avait à faire, c'était ajouter un personnage secondaire, si on veut, avec M. Laurent et ses deux fils. Et là, ça permettait de dire « Oh! On a vu un gros cigare doré dans le ciel! » Il s'en allait vers le village et paf! Ta filière extraterrestre, elle est facile à implanter par la suite. Alors, il y a eu des modifications comme ça. Par contre, on est en 2021 et on n'a toujours pas d'explication sûre et certaine sur qu'est-ce qui s'est passé sur les berges du village d'Anjikuni. Mais Tristan, on habite, puis toi, tu habites maintenant d'un endroit où il y a une communauté autochtone qui est bien présente, qui est bien implantée, que vous voisinez à tous les jours. Moi aussi, dans l'endroit où je suis, c'est les Innus ici. Mais la culture se rapproche un peu. Puis bon, il y a certaines coutumes. Par exemple, on a des musées qui sont dans l'endroit où ce que tu es actuellement, le vieux poste de traite où on peut aller visiter. Et on apprend dans ces musées-là qu'il y a jusqu'à pas si longtemps, là, dans les années entre 50 et 70, il y a encore certaines communautés autochtones qui étaient nomades et qui suivaient le gibier.
Oui.
Et que ces communautés-là s'installaient souvent de manière relativement temporaire. Et quand le gibier se déplaçait, ben, c'était une question de survie pour eux de suivre le gibier. Ah, sinon, il n'y avait plus de manger.
Donc,
une des explications, je dirais, très terre à terre pour la disparition du village de Anjikuni, c'est que tout simplement, la ressource nourriture a commencé à s'épuiser. L'hiver était peut-être plus dur qu'à l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé l'essentiel. Ils ont laissé derrière ce qui était trop volumineux, trop encombrant. Donc, les habitations, les tentes, bon, et on a pris l'essentiel et on a quitté pour suivre la ressource du gibier et on est allé s'installer ailleurs. C'est probablement, du moins, c'est la conclusion la plus logique qui revient. Ce serait l'explication pour laquelle M. Labelle est arrivé et que le village était vide. Ça faisait peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois que personne n'était passé par là et eux, entre-temps, ben, ils ont pris la décision de dire, écoute, il n'y en a plus de caribou, on a faim, le poisson, on ne peut pas vraiment parce que le lac est gelé trop dur, alors on doit se déplacer, sinon on va mourir de faim. Et ils ont tout simplement pris l'essentiel, préparé les traîneaux et ils sont partis plus loin pour aller chercher de la nourriture.
Oh my God, c'est fou comment, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, Jason, là, mais comment le déplacement d'un peuple d'une trentaine de personnes pour changer, pour aller, mettons, récupérer de la bouffe ailleurs. Parce que comme tu dis, comme le gibier se déplace, j'ai de la misère à mettre les mots sur ce que je veux dire, comme ma vision, mais c'est l'univers, la galaxie, c'est comme s'il y avait un univers et une galaxie d'histoire sur le globe terrestre. C'est fou comment ça a créé des rebonds, cette histoire-là, t'sais, quand on y pense. C'est comme un peu un battement d'aile d'un papillon, tu sais, qui crée un ouragan, là, tu sais.
Pour eux, c'est juste normal. Pour eux, ils ont toujours fait ça. On s'installe quelque part, puis c'est temporaire. Donc, on s'installe jamais de manière permanente. C'est la raison pour laquelle les habitations, bon, ça va être des igloos, c'est de la neige, c'est des blocs de neige, des blocs de glace, ou ça va être des tentes avec des pots puis des branches. On s'installe pour être confortable, pour être capable de se garder au chaud, mais jamais de manière permanente. Et quand ça marche plus, on change de place. Puis pour eux, c'est juste naturel. Mais ce petit événement-là qui a fait que M. Labelle a dit « Il me semble qu'il y a quelque chose de pas normal. Je vais appeler les autorités. » Et là, il y a un journaliste qui a entendu parler de ça, qui est allé voir M. Labelle, qui a dit « Ben écoute, le village était vide. Là. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, il n'y a pas... Mais le village était vide. J'ai trouvé ça bizarre. Puis bon, j'ai trouvé une place, une vieille peau, puis j'ai trouvé un vieux fusil qui marchait plus ou moins. » Et là, on est parti de là, qui est un article, finalement, relativement correct et qui fabule pas, mais l'histoire s'est transformée. C'est devenu 2000 personnes enlevées par les extraterrestres avec des tombes déterrées, puis des chiens morts, puis tous les canaux laissés derrière, les traîneaux laissés derrière. Il y a eu une évolution à cette histoire-là absolument incroyable et peut-être qu'un événement mineur qui se passe cette année, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, va devenir une histoire de fou comme
c'est
celle-là.
Ça. Je trouve la morale est vraiment intéressante, Jason, parce qu'après plus de 70 épisodes, on commence à faire des liens quand même, puis on se rend compte que des fois, les plus petites histoires deviennent les plus grandes, et les plus grandes histoires deviennent les plus petites. Je pense aussi au Kraken, là, quand on y pense, ça date de genre plus de 2000 ans
oui.
que les gens avaient vu une bébite bouger dans l'eau. Alors, c'est un calmar géant. Puis là, l'histoire a grossi. Puis au fil des siècles, les marins se faisaient des peurs bleues avec ça. Puis il y a eu des centaines de livres écrits là-dessus. Alors qu'en fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'un pêcheur qui a vu un gros calmar, puis c'était un calmar géant.
Ben
qui,
oui.
Qui mesure 2 mètres. Mais c'est un peu comme cette histoire-là. On se rend compte que l'imaginaire humain, comme tu dis, c'est captivant de voir qu'une histoire peut être reprise, transformée partout dans le monde, puis de retracer les sources et tout, là, c'est important. Puis en tout cas, c'est que on est vraiment dans 7-8 milliards d'humains, mais des dizaines et des dizaines de milliards d'histoires.
Là. Ben voilà, et une histoire toute simple, qui est quand même, c'est particulier quand même. Là. Je veux dire, quand quelqu'un ne connaît pas le contexte et qui arrive dans un village qui est complètement vide comme celui-là, oui, ça peut mener la personne à se poser de sérieuses questions sur qu'est-ce qui a pu se passer, mais ça reste quand même pratiquement un fait divers qui devient une histoire tiré par les cheveux et qui prend une dimension absolument incroyable. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un mystère qui n'est toujours pas et qui ne sera jamais élucidé, là, je veux dire, à moins qu'on retrouve un descendant de cette tribu-là, de ce groupe-là, et que cette personne-là, par la tradition orale, puisse dire, ben oui, mon arrière-grand-père a raconté à mon grand-père, qui a raconté à mon père, qui a fini par me raconter à moi, en novembre 1930, ça a été un hiver épouvantable, et puis on était sur les berges du lac Njikuni, puis on a changé. À moins que ça arrive, on n'aura jamais d'explication. Alors, on doit y aller par logique, par élimination, puis dire, bon, ben qu'est-ce qui a pu arriver qui fait du sens? Et la seule explication qui demeure logique, en connaissant la culture du peuple, en connaissant le contexte, c'est vraiment, on a quitté parce qu'on manquait de nourriture, parce que le gibier avait changé de place et on l'a tout simplement suivi. Mais il y a plein de théories et le peuple inuit et le peuple autochtone amérindien a beaucoup, a une culture très imagée, hein, a une culture très proche de la terre. Alors, si tu demandes à quelqu'un qui est très, je dirais, pas croyant, mais qui vit bien sa culture, là, qui la vit à fond, sa culture, si tu lui demandes à lui qu'est-ce qui est probablement arrivé, malgré que c'est son peuple, malgré qu'il le sait que son peuple était nomade à cette époque-là et que pour sa survie devait suivre le gibier, il va quand même probablement donner comme première explication, Tristan, le dieu du vent qui est venu emporter les membres du village. Parce que ça fait partie de leur culture mystique et ce serait pour eux, c'est probablement le dieu du vent qui est venu les chercher.
Donc, c'est Mathieu, celui qui t'a raconté cette histoire.
Oui, ben voilà, parce qu'il les a côtoyés, lui. Alors, il se les fait raconter de manière très imagée, l'histoire. Et eux, dans l'histoire, ils vont dire c'est le dieu du vent qui est venu les chercher.
OK.
Ça ne veut pas dire qu'ils pensent qu'il y a un dieu du vent qui a ouvert les nuages et qui a dit « Hey! » Puis qu'il les a pris. Mm-hmm. Ils le savent probablement que le peuple a juste changé de place. Mais dans l'imaginaire, pour imager l'histoire et la rendre vraiment en lien avec leurs croyances, avec leur culture, eux, ils vont dire que c'est le dieu du vent qui est venu les chercher. Ah, je trouve ça beau.
Ben oui, c'est beau. C'est très beau. Moi, j'adore cette vision. Tu sais, le fait de qu'il y a un dieu dans, mettons, un dieu de la rivière, un dieu du bois, un dieu des animaux, un dieu du vent, un dieu de je trouve ça vraiment captivant. Puis, bref, on pourrait continuer à parler de ça longtemps, mais je trouve ça magnifique, cette vision. Puis ça me parle beaucoup. Puis je trouve ça beau. C'est une belle conclusion, Jason.
Ben oui, hein, c'est le fun. Ah, écoute, dans les autres théories, rapidement, il y a celle des extraterrestres qui, mettons qu'on met de côté là, toute la théorie très terre-à-terre de ils ont tout simplement migré, ils ont tout simplement changé d'endroit. La thèse des extraterrestres est la deuxième plus populaire. Alors,
Okay.
Y en a encore qui croient dur comme fer que c'est les extraterrestres qui sont venus les chercher et que c'est vraiment une disparition de masse. Et même dans certains cas, quand on parle des 2000 habitants là, dans l'histoire exagérée, on dit que ça serait la plus grande disparition de masse par une intervention extraterrestre.
OK, OK. Écoute, Jason, j'ai une question pour toi. J'avais deux théories.
Oui, vas-y donc.
Moi, la panoplie de théories qu'il y a, bon, il y en a une qui est un peu dans ma tête un peu plus noire, macabre, mais si on se fie à l'histoire, là, mettons, de 1959, puis le fameux pouf, ou comme le pouf, comme tu disais, j'ai pensé à la combustion spontanée.
Oui, ben oui, qu'on avait déjà parlé hein, dans les phénomènes étranges, les combustions spontanées qui laissent très, très peu de traces derrière également. Ben oui, c'est vrai, j'avais même pas pensé à celle-là.
Une combustion spontanée intense. Puis sinon, j'avais pensé aussi à quelqu'un un daubizarien, ou une daubizarienne, en fait, qui nous a écrit sur notre page Facebook, qui nous a parlé du col de Dyatlov.
Oui.
Donc, je me suis dit peut-être que, dans le fond, ils ont fui parce qu'il y a eu, je sais pas, une tempête et tout. Peut-être qu'il y a eu un glissement de terrain. Ils se sont fait ensevelir sous la neige, comme dans le
un mouvement de panique. Oui. Ben ça aussi, ça ferait du sens. Parce que ça se peut. Ça reste des théories plausibles. Et un mouvement de masse comme ça, hein, on a une trentaine de villageois. Il y en a 8 qui partent en panique. Puis la panique devient contagieuse. Et on contamine plus ou moins tous les membres du village. Et là, on les convainc de tout laisser derrière et de quitter à la course. Et là, ben, finalement, on se perd dans le blizzard puis on ne retrouvera jamais parce que c'est des territoires absolument immenses. Là. Je veux dire, on a même pas... on a de la difficulté à s'imaginer à quel point ces territoires-là sont vastes et c'est de la nature dans toutes les directions pour des centaines de kilomètres. Là. Donc, ça ferait du sens. Je dis, c'est aussi défendable et même plus tant qu'à moi que la théorie des extraterrestres. Et il y a une autre théorie très farfelue aussi, Tristan. Tu vas l'aimer celle-là. Une autre dimension.
Oh, j'aime ça.
Hein? Hey, je savais que tu aimerais ça. Alors, on donne des exemples. Les gens qui défendent cette théorie-là d'une autre dimension, ils vont donner des exemples de situations qui seraient documentées. Par exemple, quelqu'un qui fait du jogging avec ses chums, puis là, il s'enfarge, puis il tombe, puis en tombant, pouf, il disparaît dans une autre dimension. On donne des exemples comme ça. Un père de famille qui faisait des niaiseries dans le salon avec ses enfants, puis là, tout d'un coup, paf, il disparaît, puis là, on l'entend, mais on le voit plus. Alors, on amène des exemples comme ça et on dit que ça serait...
OK. Donc, bon sang, les dimensions, Jason, j'aime ça, ce terrain-là, moi.
Donc, c'est ça. C'est une autre théorie, là, comme quoi les membres du village seraient juste tombés dans une nouvelle dimension, une autre dimension, et seraient tout simplement disparus. Alors, c'est les théories qui circulent encore aujourd'hui, mais je te dirais que plus on avance dans le temps, de moins en moins les gens défendent ces théories-là. On s'en va vraiment vers la théorie de « on a tout simplement pacté nos petits, puis on est parti ailleurs ».
Ah ben donc ça fait pas mal de théories, j'aime bien ça. Je trouve que la théorie la plus plausible, c'est celle bon du peuple nomade qui a décidé de suivre le gibier et de se diriger ailleurs. Mais pour vrai, Jason, incroyable cette histoire, puis les rebondissements, le tu sais, on a refait toutes les sources, on est rendu donc des experts de cette histoire-là. Un gros merci pour ce deuxième épisode, Jason.
Ben, ça me fait plaisir. Écoute, c'était très agréable comme histoire. Elle est fun à raconter, mais de raconter l'histoire de l'histoire, c'est le fun aussi de voir comment une histoire comme ça peut finir par prendre de l'ampleur.
Ben oui, vraiment. Donc, n'hésitez pas là, à partager l'épisode, de nous écrire des commentaires. On vous lit avec attention. Jason, merci. J'adore ce début de quatrième saison. Je vais me préparer un sujet pour le troisième épisode. Et ben un gros merci à vous, chers Daubizariens, Daubizariennes, de vous joindre à nous cet automne. Là, on est super enthousiastes. Puis merci, Jason.
Excellent. Alors, ben voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Tristan. Bon, on se retrouve bientôt.
Ben oui. Prenez soin de vous, tout le monde.
Bye-bye.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
C'est maintenant l'heure de l'émission éducative par excellence pour les tout-petits, Lily et Riri. Ce matin, Lily et Riri découvrent le chiffre 1.
Oh, regarde, Lily!
Oui, Riri?
J'ai trouvé le chiffre 1!
Oh, le chiffre 1!
Oui, le chiffre 1!
Oh! Oh, le chiffre 1!
Oh oui, c'est le chiffre 1!
Ah, oh, le chiffre 1!
Ben voyons, ça va t'aboutir à un moment donné?
Le chiffre 1!
Oh, oh, le chiffre 1!
Regarde, Lily, le chiffre 1!
Oh, Riri, c'est le chiffre 1!
Oui, le chiffre 1!
Ah! Ah, je pense que ça achève, là.
J'ai froid.
Voyons.
Le chiffre 1.
Lily et Riri vous a été présenté par le ministère de l'Éducation du Québec.